Voilà, je précise un point ici pour la librairie qui la marque des apôtres, où le monsieur, le responsable est venu me dire qu'il n'a pas reçu.
Il y a peut-être eu un bug informatique.
Il y a eu un bug informatique, ça ne m'étonne pas. Rien ne m'étonne de l'informatique. Et il est arrivé avec un seul titre, mais il vous promet d'avoir d'autres titres la prochaine fois, si Dieu le veut. Donc, pour le premier volet, comme a dit M. Chamagne, nous allons voir ce que veut l'islam pour l'Occident. Mais au préalable de tout propos sur l'islam, il convient de rappeler les trois caractéristiques consubstantielles à cette croyance. Premièrement, le lien intime et essentiel entre le spirituel et le temporel. Autrement dit, pour tout musulman, entre le religieux et le sociopolitique. Le caractère juridique et légaliste de la morale islamique. En effet, l'islam se dit la religion de la loi de Dieu, d'une racine alliée au sens de la voie révélée. Troisième point, caractéristique, c'est la communauté, la notion de communauté, la umma, sacralisée par Dieu et missionnée par lui pour concrétiser l'islam et l'identifier. L'islam se dit « din wa dawla », c'est-à-dire « religion et état ». Il est la fusion achevée du spirituel et du temporel, et ce, dès le Coran, l'univers monothéiste qu'il induit, le rend irréductible et imperméable aux autres religions. L'islam est un tout cohérent dans sa logique interne. Il ne négocie que pour gagner du terrain et des membres à la Oumma, mais ne se négocie jamais lui-même. La société d'accueil doit l'accepter tel qu'il se présente. Cependant, toutes les formules théologiques islamiques exhortent et invitent au respect de la dignité de l'homme. Mais il s'agit alors de l'homme croyant, c'est-à-dire le seul musulman dès le Coran. Il rentre dans un critère de statut légal, et à partir de là, la dignité de chaque croyant sera proportionnelle au degré de sa foi. Ce critère du statut légal est de nature juridique et d'une morale juridique propre à l'islam. Le respect de la dignité n'est donc pas un absolu, mais tient compte de la distinction entre croyants et non-croyants, les croyants eux-mêmes étant hiérarchisés en fonction de leur sincérité. Ça vous explique pourquoi il y a des musulmans qui massacrent d'autres musulmans. Quant à la laïcité, telle qu'elle est comprise aujourd'hui comme négation de la religion dans la sphère publique, l'islam pose problème car il se dit non seulement religion et état, comme nous venons de voir, mais aussi din wa dunya, c'est-à-dire religion et monde. En raison de l'origine divine des deux paradigmes, on exclut toute interprétation qui viserait à déroger pour une histoire ou pour un espace humain. Cet espace, nécessairement reconnu comme inférieur au divin. Actuellement, l'expression des deux binômes est tangible dans la confrontation voulue par l'islam entre son modèle propre et le modèle occidental des sociétés modernes. Des intellectuels musulmans ont critiqué de ce fait le modèle occidental de laïcité. aboutissant à la conviction que l'islam est laïque par essence et qu'il n'a à être compatible avec aucune laïcité d'importation. Au final, le travail effectué sur les textes par ces intellectuels s'est retrouvé à islamiser la laïcité plutôt que laïciser l'islam. À l'instar de Tariq Ramadan, lorsqu'il islamise la modernité en prétendant moderniser l'islam. Par conséquent, l'anthropologie portée par une société des droits de l'homme et l'anthropologie portée par l'islam diffèrent fondamentalement. D'ailleurs, le terme anthropologie n'est pas idoine lorsqu'il s'agit de l'islam tel qu'il se veut, car selon lui, la science de l'homme ne peut s'appliquer qu'à l'homme dans sa dimension intrinsèque de croyant, mu'min, donc le seul musulman. Tout autre homme est qualifié par ce qu'il confesse comme croyance. Juifs et chrétiens sont gens du livre, car le Coran reconnaît une écriture révélée en un livre. Aux juifs, Torah. Aux chrétiens, évangile au singulier. Ceux qui adorent plusieurs divinités sont des associateurs, mushrikoun, et ils sont souvent, cette notion est étendue aux chrétiens à cause de la Trinité. Donc, ceux qui adorent plusieurs divinités sont des associateurs, impies et mécréants sont des infidèles, koufars. Les athées sont des damnés de l'enfer, mulhidoun. Il est fort significatif que la Ligue du monde islamique, dont le siège est à la Mecque, ait publié en 1979 une déclaration des droits de l'homme en islam, parallèle et sans complémentarité avec la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Elle fut adressée aux organismes internationaux de l'ONU avec une note qui conclut ainsi « Telle est la loi islamique, parfaite en ses dispositions, efficace en ses injonctions et juste en ses sanctions, et les paroles de Dieu pour tout soumis à lui. » Soumis se dit muslim, ce que nous rendons en français par musulman. Donc, et les paroles de Dieu pour tout soumis à lui, pour tout musulman à lui. Avec une configuration de cette nature, est-il question encore de choc des civilisations? Malheureusement, l'expression « choc des civilisations » de Huntington, après avoir été galvaudée, est dépassée dans l'espace et dans le temps. De nos jours, il s'agit bel et bien d'un choc des religions, voulu par l'islam radical, l'islam politique, comme le nomment avec justesse les Égyptiens, en raison de sa connaturalité avec le premier. Ce choc des religions se manifeste en guerre des religions généralisées, comme est généralisé un irrédentisme islamique de plus en plus vindicatif et violent de la part des minorités islamiques. Cette revendication des territoires par ces minorités serait sans conséquence grave s'ils étaient moins nombreux, mais surtout dans un pays bien arrimé à son identité. Sans réaction de l'Occident, ce choc est insurmontable. Ceci étant, il faut consciencieusement distinguer le musulman individuel de l'islam comme système, c'est-à-dire distinguer la personne du groupe soumis à ce système. Dans l'acronyme CISA de mon équipe de recherche, les quatre termes christianisme, islam, société arabe sont au pluriel. C'est pour dire que le pluriel d'islam existe, mais il n'a strictement pas le sens du pluriel de christianisme. Il y a certes trois grandes branches, sunnisme, chiisme et kharijisme, que l'on peut mettre en parallèle avec les églises catholiques, orthodoxes et protestantes, mais c'est une classification de forme, non de fond. Les raisons doctrinales et historiques de chaque fragmentation n'ont absolument aucun rapport. Par ailleurs, il y a une grande ambiguïté qui est entretenue par l'emploi indistinct du mot islam pour désigner à la fois une religion et une civilisation. Cela suppose que la civilisation en question est entièrement modelée par la religion correspondante, ce qui est loin d'être le cas. En fait, il faudrait parler de l'islam religion, d'islam civilisation, islam art, etc. Les musulmans eux-mêmes poussent à la confusion et l'exploitent en promouvant des émissions radiophoniques et télévisées où tous les domaines sont traités sous le même label islam, mettant à tort ou à raison au crédit de la religion tous les apports civilisationnels considérés comme valorisants. En dépit des différences culturelles visibles entre les divers pays islamiques, l'islam religion est fondamentalement un, en raison de la référence à un seul Coran, parole de Dieu immuable, comme dit le Coran. Quel que soit le niveau du croyant, du plus modéré au plus violent, le référentiel sacré vient toujours du Coran. Les interprétations et les recherches du sens éventuel ne sont jamais qu'une superposition à un fond légaliste valable pour chacun. L'islam étant une orthopraxie, c'est-à-dire une religion qui se définit avant tout comme pratique, le musulman qui n'observe pas la voie coranique n'est plus qu'un musulman sociologique, susceptible d'admonestation par un musulman plus musulman que lui. L'islam est avant tout une religion de masse, où l'individu est surveillé et éventuellement censuré par la communauté elle-même. Ce qui explique le phénomène récurrent dans l'histoire de l'islam de massacre de musulmans par d'autres musulmans. Comment distinguer alors l'islam de l'islamisme ? Communément, on considère l'islamisme comme étant l'application intégrale des préceptes de l'islam. Toute la question est de savoir ce que certains musulmans pensent être en droit de sélectionner parmi ces préceptes. À ce sujet, il convient de citer un musulman accepté par les occidentaux laïcs et chrétiens, M. Erdogan, qui déclare: il n'y a pas un islam modéré et un islam violent. L'islam, c'est l'islam. Il l'a prononcé extrêmement agacé. La vérité est que l'islam modéré est concevable, mais il sera toujours le fait de l'individu musulman, jamais du groupe. Seul et sans la pression de sa communauté, le croyant peut vivre l'islam en le ramenant à l'aune privée d'une morale universelle et une pratique intérieure personnelle, sans revendication communautariste et sans besoin surtout de marqueurs sociaux. C'est en groupe que les musulmans sont susceptibles d'élever des revendications pour faire prévaloir là où ils se trouvent l'exercice de leurs droits et leurs obligations, qui sont, selon leurs croyances, la concrétisation des droits de Dieu et de ses serviteurs. Si différence il y a entre islam et islamisme, je reviendrai dessus, ce sera alors celle qui existe entre, d'une part, le croyant individuel, abstrait de la communauté, la Ummah, et de ses pratiques, et d'autre part, cette dernière omnipotente. De fait, on a vu dans l'histoire de l'islam dans et hors de son territoire, l'individu se faire happer par le groupe dès qu'il donne des signes de distanciation avec la religion. D'ailleurs, le résultat, on le voit avec le temps, eh bien, aboutit à ce phénomène de ré-islamisation sévère dans en terre non islamique. Dans d'autres cas, si la personne refuse, elle est expulsée du groupe, au mieux mise au banc, au pire exilée ou assassinée. Les exemples sont nombreux. Ici, on peut évoquer l'islamologie à l'université en tant qu'indice important de la capitulation, en France et en Europe, devant et l'islam et l'islamisme. L'islamologie qui s'inscrivait dans la grande tradition orientaliste de l'université française n'est plus représentée que par de rares individualités. Sous la pression des musulmans de plus en plus nombreux et de leurs partisans compréhensifs par humanitarisme, charité chrétienne ou au contraire idéologie laïcisante, les départements d'études arabes ont basculé dans un schéma irréversible. Des Arabes formés dans leur pays d'origine viennent pour passer un doctorat en France, à l'issue duquel ils refusent de repartir chez eux pour faire profiter leur pays de la compétence qu'ils sont censés avoir acquise. Un doctorat valant un doctorat, ils s'installent pour enseigner selon les méthodes d'origine en arabe à des Arabes. Seul le financement et les diplômes demeurent français. Je peux donner des exemples concrets à la demande. Nos étudiants à l'université publique sont de ce fait à 99% des Arabes, très majoritairement musulmans. L'orientalisme classique a disparu progressivement depuis près de 4 décennies et les études arabes n'intéressent plus les jeunes Français. Il y a 10 ans, une jeune Française s'inscrivant à la faculté de Toulouse, donc d'État, au département d'arabe, elle avait été formée à la Cato, fut accueillie par ses camarades arabes et musulmans par « Que viens-tu faire ici dans notre département ?» Bien sûr, demeure le dialogue interreligieux. Seulement, dans le dialogue islamo-chrétien officiel, les parts sont nettes. Celle des chrétiens est l'affectif et l'idéologique, appelé charité chrétienne, avec la grande tentation du syncrétisme. Celle des musulmans est, au contraire, sans concession de fond, puisqu'elle repose sur le Coran avec ses restrictions. Et lorsqu'il y en a, cela ne porte que sur des points pratiques. Exemple, M. Talbi, qu'est-ce que vous nous réclamez encore? Après tout, on ne met plus à mort officiellement l'apostat. Avec mon époux, nous avons consacré 2 années de recherche à un livre, La Mésentente, qui n'est pas ici ce soir, qui recense de façon clinique les difficultés doctrinales de ce dialogue, telles que ces acteurs eux-mêmes ont été obligés, souvent à contre-cœur, de les reconnaître. Je développe à ce sujet une réponse plus circonstanciée dans le sujet du dialogue, dans Entretien sur l'islam avec M. Louis Garcia, mais aussi dans un livre collectif intitulé « Le dialogue d'après Vatican II » qui a été accueilli avec une grande circonspection comme pour chacun de nos livres où il y a risque ou danger de vérité. Ces ouvrages sont toujours demandés à nos éditeurs, surtout par des journalistes catholiques en particulier. Ils sont exploités ouvertement, mais jamais présenté dans des recensions honnêtes au profit du service général de l'instruction. Dans ce climat du dialogue, Dalil Boubacar pouvait affirmer vouloir créer créer un consensus religieux avec les catholiques en se servant d'une église comme lieu de culte islamique. Je reviendrai sur cela plus tard. L'idée de consensus religieux avec les catholiques est directement issue de l'appareil langagier de l'islamo-chrétien. L'argument du même Dieu, de rites voisins et fraternels, là ce sont des citations de l'article de M. Boubacar, de l'appel de M. Boubacar. Donc, même Dieu, consensus religieux, rites voisins et fraternels, évoqué par Boubacar le 15 juin 2015 sur Europe 1, est caractéristique. Il s'adresse essentiellement à la frange chrétienne des professionnels de l'islamo-chrétien, devenue la principale innovation du XXe siècle. Cette faction a ses prophètes, exemple comme Massignon, entre autres, ses prières mises sur Internet, ses pèlerinages, Vieux Marché, Saint-Jacques, et surtout une théologie flexible. Boubacar ne fait qu'utiliser l'outil lexical de celle-ci. À chaque saillie de la part des musulmans, on constate que c'est toujours à leur seul profit avec des catholiques islamo-solubles, sans exigence spirituelle et sans désir élémentaire d'une réciprocité légitime. Nous n'avons pas à nous demander si ce consensus religieux avec les catholiques est possible. Il existe déjà chez les islamo-chrétiens depuis Vatican II. Le fait nouveau est seulement que des officiels musulmans osent chaque fois davantage dans leurs revendications. Pour nous, Européens, faut-il avoir peur de l'islam? La peur sera toujours proportionnelle au doute et à la décomposition des racines de l'Occident en général et de l'Europe en particulier. Or, nul n'ignore que tous les symptômes de la désintégration de l'Occident se sont aggravés dans une accélération démoniaque, encore encouragée par les lobbies humanitaires, politiques et religieux. Pour l'Occident, il n'est plus temps de la peur. Il est au temps de la déploration de ses fautes contre l'esprit. Par ailleurs, l'Occident peut avoir peur de l'islam dans la mesure où il ne le connaît pas. S'il le connaissait réellement, il saurait alors comment se prémunir à son égard. D'où la nécessité de l'étude objective et désintéressée de l'islamologie avec la plus totale honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire sans pathos, sans bons sentiments et sans illusion. Ce qui appelle la question de l'évangélisation des musulmans. Dans évangélisation, il y a évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle. Pardon pour messieurs les chanoines. Je n'empiéterai pas sur vos plates-bandes. Chaque chrétien est porteur de cette bonne nouvelle. Offerte par le Christ dans son message, elle devient pour chaque chrétien l'annonce adressée par Dieu à l'homme et représente la prédication de l'Église au monde entier, y compris les musulmans. Elle se fait dans le respect de la liberté de conscience de chacun. Cependant, aucun verset dans l'Évangile ne prône la contrainte ou la violence en faveur de cette annonce. L'amour de Dieu et l'amour du prochain en sont, de ce fait, ses conditions naturelles sine qua non. Le chrétien aidera le musulman, qui le veut, à découvrir cette liberté de conscience dont il est privé dans sa croyance. Dans un sens, les récents événements en Orient et en Occident liés à l'islam étaient prévisibles pour deux raisons. La première nous est fournie par l'histoire même de l'islam qui révèle une claire périodicité de poussées violentes, commençant du vivant même de Muhammad à Médine. Expédition punitive, rébellion écrasée dans le sang, exécution de tribus juives, etc. De nos jours, le schéma est reproduit fidèlement avec le même lexique, sans progression des premiers temps islamiques. La seconde raison est que la charia, telle qu'elle est exprimée par le droit islamique et vécue par le musulman, interdit à ce dernier d'être sous l'autorité d'un pouvoir non islamique. Donc, en principe, un musulman ne peut subir le pouvoir d'un état de droit de non-croyant. Ce sera considéré comme une tyrannie, le terme technique c'est al-bari, intolérable pour le croyant, lequel est, dès le Coran, le seul musulman, je le répète, qui se trouve, il va se sentir, les textes l'expliquent, qui se trouve infériorisé alors qu'il est déclaré par Allah lui-même comme, je cite le Coran, « dernier détenteur de la terre ». Donc dans le Coran 10, 14, 37, 39, etc. À lui incombe alors le devoir de faire triompher les droits d'Allah qui sont ceux-là même dont il est investi en tant que croyant. On peut parler d'aveuglement et de négation coupable d'une grave réalité de la part de certains politiques et religieux. Le déni de soi est devenu un réflexe valorisant. Il faut aimer l'autre, qui est prioritairement le musulman. D'ailleurs, en parallèle, on va vouer une détestation pour son semblable, chrétien, mais qui n'est pas comme, ne pense pas comme lui. Il faut aimer l'autre, qui est prioritairement le musulman, se réprouver autoproclamé, au prix d'une détestation assumée de soi, sans aucune résistance à la figure imposée. Ainsi, dans la sphère islamo-chrétienne, la charité chrétienne devenue de l'humanitarisme et l'amour du prochain muet en droit de l'homme, des ecclésiastiques et des politiques accourent soutenir imams et islamistes dits modérés, devenus de ce fait plus arrogants et vindicatifs. Tariq Oubrou raille la loi sur le niqab et la burqa dans un article de le quotidien La Croix. Et Tariq Ramadan, l'autre, participe à la délégation islamique du Forum de 2008 à Rome avec sept autres convertis du christianisme à l'islam soufi, tandis qu'ils s'indignent tous publiquement du baptême de Mahdi Allah. Cependant, je rappellerai autant de fois qu'il le faudra qu'un islam modéré est concevable, mais il est le fait de l'individu musulman, jamais de la collectivité. Seul et sans la pression de sa communauté, le croyant peut vivre sa religion en la ramenant encore une fois à la sphère privée et à la pratique strictement intérieure et personnelle. Aujourd'hui, un dialogue entre islam officiel et Église catholique demeure à un niveau institutionnel un marché de dupes, irréalisable en vérité. Je donne pour exemple cet appel conjoint du Sri et de l'œuvre d'Orient, sorti il y a 4 ans, peut-être, à propos du calvaire des chrétiens d'Orient. C'est sur saphirnews.com. Pour ceux qui pratiquent l'ordinateur, que je n'ai pas. Il révèle très malheureusement que le souci majeur de ces professionnels du dialogue n'est pas de sauver les chrétiens, mais de sauver le dialogue. Cela au prix de mensonges, de menaces, de flagorneries, tour à tour. Si nous devons reconnaître que le martyr de certains musulmans anti-Daesh les honore, il ne saurait être un argument dialoguiste. En outre, ce texte ne tient aucun compte des mises en garde des autorités religieuses locales chrétiennes. Au niveau individuel, il est plus que pensable, il est un devoir pour le chrétien qui, par son baptême et par sa foi en un Dieu trine, intrinsèquement dialogue, est prédisposé à épancher le dialogue qui brûle en lui. Mais cela doit concerner tous les enfants de Dieu, sans privilège spécial pour les musulmans. Quant aux actions qui sont nécessaires désormais face à cet islam, il faut dire malheureusement que, bien que ce soit tard, la fermeté et la détermination doivent être totales. Musulmans, chrétiens, juifs et sans religion doivent respecter la loi de la nation d'accueil. La religion ne donne aucun droit de conquête. Pour faire face à cet islam conquérant, plus violent de jour en jour, que proposent les terres d'accueil? La décomposition de nos sociétés en Occident en général et en France en particulier est due au tarissement progressif de la transmission qu'assurait l'école. Celle-ci, dépendante de l'État, de droite ou de gauche, s'est muée de matrice qui éduque et forme en outil qui programme délibérément le remplacement de la civilisation d'une nation par le multiculturel diversitaire. Par la suite, une réelle frayeur de créer des conflits violents, d'être accusé d'exclure l'autre, a rendu la situation irréversible. L'on traite alors les conséquences, jamais les causes. L'on sacrifie histoire, patrimoine, foi, valeurs, idéaux sur l'autel du pluralisme multiculturel. À telle enseigne que l'objet du sacrifice finit par remplacer les sacrifiés. L'héritage judéo-chrétien et la pensée gréco-latine sont dénoncés pour leur verticalité civilisationnelle en tant que cause majeure qui ralentit la dissolution des nations et la mort annoncée d'une civilisation. Né au milieu des années 70, ce progressisme multiculturel devenu forcené achève sa course dans une tension identitaire inédite en France et en Occident en général. Elle est due à la pression d'une minorité islamique devenue despotique, générant des figures de proue estampillées modérées, légitimées par les régimes au pouvoir et par le peuple de l'islamo-chrétien quand ils sont chrétiens, au nom d'un dialogue béat collaborationniste. Dès lors, politiciens, clercs, laïcs, citoyens sans titre œuvreront avec acharnement au service d'une dogmatique nommée le vivre ensemble. Une invention récente de la langue française, mauvais français, d'une composition néologique du verbe substantivé dont les événements montrent cruellement l'intolérable imposture. Notre société déchristianisée est invitée désormais à la religion du vivre ensemble, qui se concrétise dans un dialogue où les musulmans ne cèdent rien de fondamental et les chrétiens s'empêtrent dans tant de choses à céder. Pour le vivre ensemble, il faut être deux à le vouloir. Or, les musulmans de France se sont trop souvent retranchés dans le vivre en islam, au mieux dans le vivre à part, une fois que leurs revendications communautaires sont acquises. Au pire, dans le refus catégorique des lois de la société d'accueil, qui sont humaines et doivent céder devant la loi divine, tandis que les nous sont réduits à vivre dans une équation paradoxale de composantes réparties inégalement que sont le terrorisme intellectuel, l'aveuglement idéologique, le chantage moral subi, le chantage physique actif, charité mal conçue et altérité mal vécue. Un processus que l'on pourrait nommer libanisation est aujourd'hui patent en France. Souvenez-vous, naguère, les minorités des fidaïnes et des chiites au Liban prirent le pouvoir pour imposer un État dans l'État, la guerre civile devenant ainsi inéluctable. Jamais le Liban ne reviendra à ce qu'il était avant la guerre. L'histoire nous enseigne que la chute de Rome a été prononcée dès que des éléments de la législation de la minorité barbare ont été intégrés au code civil romain. Dans notre pays, politiciens et médias affidés déclarent que ce qui nous menace, c'est la montée des populismes. Cette déclaration officielle du 14 juillet fut suivie immédiatement par des attentats qui se passent de commentaires. Le paroxysme du pathétique est dépassé lorsque SOS Racine, en défenseur des réprouvés de la nation, qualifie Daesh de secte d'extrême droite. Aussitôt, les médias, pour abonder dans ce sens, décidèrent de masquer les visages des terroristes et de donner leur seul initial afin d'éviter toute stigmatisation des musulmans sacralisés par la diversité. L'islam est certes minoritaire, en Occident j'entends, mais il est puissant dans sa croyance face à une nation où les chrétiens et les autres ont perdu la vraie foi, quand ils ne l'ont troqué avec la religion de l'humanitaire et des droits de l'homme. Les citoyens, eux, avec ou sans religion, s'adonnent à toutes les idéologies altermondialistes pour battre la coulpe sur la poitrine de la nation. Repentance de la colonisation, du racisme, de la xénophobie, de l'impérialisme, tout est bon pour nourrir une culture des excuses et des justifications. Cela a autorisé le collectif contre l'islamophobie en France, le CCIEF, a proclamé le 31 juillet, c'est Mohamed Boula, au sujet du pacte avec l'islam, que, je cite, « nos droits et nos libertés ne sont pas négociables ». Tariq Oubrou, éminence grise des politiciens à Bordeaux, et pour la France bien entendu, peut se permettre de proclamer dans Le Monde du 4 août « lorsqu'une autorité politique demande aux musulmans de réformer leur religion, elle commet une entrave au principe de laïcité ». Août 16, pardon, je n'ai pas donné l'année. Donc 4 août 2016. En 2008, c'était hier, selon un sondage du CSA, seulement 38% des musulmans de France considèrent que la charia ne doit pas être appliquée dans un pays non islamique. Que pensent les 62% restants ? La mollesse, le laxisme, la démission, la lâcheté de la propagande officielle expliquent la propagation accélérée et endémique du terrorisme djihadiste, car ce dernier est porté par un discours fort et violent dans un chantage permanent d'une voyoucratie triomphaliste et paraphrasant la formule biblique « djihadisme islamique et nihilisme occidental vont s'embrasser ». Dans une étreinte qui durera. Si vous me supportez, j'ai fait un petit supplément. Si vous... Je vois, ça fait 40 minutes. Je peux prendre 10, 5, 6 minutes ? 10 minutes. Vous êtes généreux, mon beau prince. Donc, rien n'est meurtrier comme la lâcheté et rien n'est humain comme la fermeté, disait Peggy. Mais c'était dans un autre monde. L'islam, salafiste ou politique, comme l'appellent les Égyptiens, a brisé tous les pays arabes et œuvre pour s'imposer en Occident, dans ses propres oripeaux originels. Salafiste, c'est les anciens. Son but est mettre l'islam au-dessus de toute autorité exogène en termes non islamiques. L'accélération est telle que l'Occident n'a pas réalisé cette conquête. Au nom des valeurs humanitaires, il s'est habitué à ce qu'il ne comprend, à ce qu'il ne comprenait pas. Bien plus, il se justifie par les valeurs qu'il prêche, mais qui profitent à cet islam. L'on constate que l'Europe, l'Occident donc, dénonce beaucoup, fait la leçon sur les droits de humains, mais n'agit pas. Il n'agit pas. Les États-Unis et la Russie font le contraire. Ils agissent avec efficacité. Cette différence d'attitude est tout à fait perçue et exploitée par les islamistes. Ils peuvent envahir et s'imposer à l'une, mais pas aux autres. Entre une ONG géante et deux pays souverains, le choix de l'islam salafiste est fait. Les musulmans et toute personne réfléchie voient le phénomène avec effroi, mais ils sont minoritaires. J'ai dit un jour dans une réponse à un journaliste que l'islamisme, il me demandait une différence islam et islamisme. J'ai dit l'islamisme est l'enfant monstrueux de l'islam. Oui, enfant. Ce fut l'indignation à l'époque, à tel point qu'une très bonne Xavière, sœur Xavière, réclamait mon exclusion de l'enseignement catholique. Aussi, des années plus tard, il me plaît de citer un grand écrivain algérien qui vit courageusement dans une petite ville d'Algérie sous la menace. J'ai nommé Boualem Sansal. Dit dans son dernier livre concernant l'islam et l'islamisme, la citation elle est là. Ce sont des jumeaux. Ce sont des jumeaux. L'islamisme emprunte tout à l'islam et l'islam ne lui refuse rien. Avez-vous entendu un quelconque chef musulman, grand mufti, ayatollah, président ou sultan, faire le distinguo entre l'un et l'autre? Les avez-vous entendu dénoncer l'islamisme et distinguer les promoteurs de l'islam des promoteurs de l'islamisme? Si différence il y a entre le musulman et l'islamiste, elle est dans le degré de radicalité qu'ils mettent à appliquer les préceptes coraniques, à défendre l'islam et son prophète, à œuvrer à l'expansion de l'islam. Le musulman fait ce qu'il peut, selon le principe de la modération et du respect des autres. Et l'islamiste en fait trop, selon la règle du jihad et du martyr. La réponse, là, maintenant, après une telle citation, faut-il craindre la propagation de l'islamisme en Occident? Ici, vraiment, on ne peut que rappeler que la réponse appartient à l'histoire. C'est l'histoire qui nous donne raison ou pas. Plus que jamais, on constate que la marche de l'islam ne se laisse distraire ni par les échecs, ni par les succès. Toujours, nous dit Boualem Sansal. Elle se fait avec une certitude absolue. L'islam vaincra. Aujourd'hui un peu, demain beaucoup et après-demain totalement. Car Allah le veut et les musulmans sont entre ses mains. Et voilà l'histoire. Regardez l'Algérie. Dans les années 80, il y a eu un groupuscule, la bande de Bouali, qui a commis les premiers attentats islamistes du pays. Des actes tout à fait insignifiants. Puis après son éradication, il y a eu en 1990 le FIS et l'AIS. Puis après leur destruction, il y a eu le sinistre GIA. Puis après 10 années de guerre, 250 000 morts et un accord secret avec l'armée, les islamistes entrent dans le gouvernement. À l'Assemblée donc nationale algérienne. Ils dominent la justice et les mosquées. De rien, en 1980, ils ont tout à partir de 2000. Sous le règne de Bouteflika, leur ami et allié. En France, rien. En 1980, quelques attentats dans les années 90, mais à partir de 2015, les islamistes imposent leur présence, décident de l'agenda national et gouvernent des territoires. Ceci m'a rappelé, puisque nous parlons ici de l'Occident en général, de la France en particulier, ça nous amène à l'échelle de la France que la progression des signes marqueurs que cet islam salafiste veut pour l'Occident est tout à fait édifiante quand on regarde précisément, on se penche sur l'histoire elle-même. Dans les années 80, au milieu des années 80, les premiers musulmans, on disait musulmans, le mot islamiste n'était pas encore en usité. Ce sont les premières manifestations avec à leur tête le célèbre prêtre des Minguettes. J'ai nommé le père, et voilà, j'oublie son nom. C'est beaucoup mieux d'oublier son nom. Mais avec un prêtre qui était dans la banlieue de Toulouse, lyonnaise. Ce sont les premières revendications en manif. Plus tard, au moment de la guerre au Golfe, au milieu des années 90, c'est le gouvernement qui lève, c'est une expérience que j'ai vécue, qui lève l'interdiction du territoire à Tariq Ramadan, qui était interdit en France, vivait seulement en Suisse. Et de là, Tariq Ramadan, dans les 15 jours qui suivaient, avait un lieu pour dispenser son séminaire et ses conférences dans toutes les grandes villes de France. À Toulouse, par exemple, où il pouvait enseigner à la Cato. Et premier attentat, et c'est le problème du foulard islamique qui est lancé. On commence par le foulard. Il y a des lois qui sont prononcées, mais qui ne sont pas appliquées. L'État a trop peur d'imposer les lois. Il y a des lois. Il y a. Donc, on commence par le foulard. 5-6 ans plus tard, c'est déjà le hijab. Elle se couvre un peu plus. Et on voit davantage de barbus dans les rues. Des barbus salafistes, bien sûr. On n'est pas encore à comme disait un étudiant mien, au total look, Mohammed, on n'est pas encore. Plus tard, encore 6-7 ans de plus, et c'est plus le hijab, là, on parle carrément de la burqa. Beaucoup plus grave, la femme est entièrement emprisonnée dans ce carcan noir. Ne croyez pas qu'elle soit obligée tout le temps. C'est souvent des victimes consentantes. Et maintenant, il y a des régions en France, des villes qui sont intégralement soumises à ce type de mode de vie. Voilà. Ce soir, je pense que il faut s'arrêter pour laisser un peu de temps pour si d'aventure vous avez encore la force de poser une question.